journal de Céline Pellarin.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, bon début de semaine à tous. L'antenne vous appartient, nous sommes ensemble jusqu'à 11h heure de Paris, 9h en temps universel. Dans un instant, évidemment, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, hein, s'il vous manque des clés, des repères pour décrypter tous les sujets que nous traitons sur notre antenne, eh bien, appelez-nous, rejoignez-nous, n'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. Je vous rappelle que le standard reste ouvert, 33 9 693 693 70, 09 693 70. 693 70 si vous nous appelez de France. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'élection présidentielle en Algérie. Vous savez que c'est jeudi prochain, dans 4 jours, que les Algériens éliront leur président. 6 candidats sont en lice, dont le sortant Abdelaziz Bouteflika. Il est au pouvoir depuis maintenant 15 ans, il brigue un quatrième mandat, mais son état de santé suscite tout de même de nombreuses interrogations sur sa capacité à diriger le pays, d'autant que depuis 2 ans, le président sortant n'a fait aucune apparition en public. La dernière, c'était en mai 2012. Et durant la campagne électorale qui s'est terminée hier, il n'a prononcé aucun discours, ni participé au moindre débat. Alors, que vous inspire cette absence? Quel regard portez-vous sur cette élection présidentielle en Algérie? Le scrutin est-il joué d'avance, comme l'affirment les opposants? Vous nous rejoignez, 09 693 693 93 70, et vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux. 195 messages postés sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter le débat. La première question de la semaine nous vient de Kinshasa. Nous allons donc en République démocratique du Congo. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous avez des questions concernant la situation dans l'Est de l'Ukraine et notamment, dites-vous, à Donetsk.
Oui, certainement. Les manifestants pro-russes ayant envahi le bâtiment du pouvoir à Donetsk, ils ont brandi donc les drapeaux russes et ont réclamé un référendum d'autodétermination en vue de leur attachement à la Russie. Alors là, j'ai deux questions. La première, la situation des Donetsk est-elle similaire à celle de la Crimée? Et les pro-russes, y sont-ils majoritaires?
Ah. Tudor Tepenak du service international est à mes côtés. Bonjour Tudor.
Bonjour Juan.
Alors des groupes armés pro-russes se sont déployés à Donetsk, mais aussi dans plusieurs autres villes de l'Est de l'Ukraine. Ils occupent des bâtiments publics. D'ailleurs hier, le gouvernement ukrainien a lancé ce qu'il appelle une opération antiterroriste, une sorte d'opération de reconquête par le pouvoir de Kiev. Intéressons-nous à Donetsk, puisque c'est là-dessus que Jean-Claude souhaite qu'on s'y arrête un petit moment. Donetsk, c'est quoi? C'est la grande ville industrielle de l'Est de l'Ukraine?
Oui, tout à fait. C'est une grande ville industrielle, mais dans une région qui connaît des difficultés, justement, sur le plan industriel, puisque bon, toutes ces industries-là sont un peu obsolètes, et que en fait, ce que craignent des habitants de Donetsk et de cette région-là, c'est que les usines soient fermées dans le cadre d'une évolution pro-européenne de l'Ukraine. Donc, ils sont dépendants de la Russie. Ils se tournent un petit peu vers la Russie en espérant qu'ils pourront continuer à travailler. Donc, ça, c'est un peu pour le contexte.
Et c'est une ville majoritairement russophone?
Oui, c'est une ville russophone. Après, les pourcentages sont difficiles à établir. Il ne faut pas oublier que on ne peut pas tracer une ligne de démarcation très nette entre les russophones et les Ukrainiens. Il y a des russophones, il y a des Russes, et puis bon, les deux langues sont quand même très liées, et puis l'histoire est commune, donc on peut pas les opposer carrément. Et ce qui compte surtout, à mon avis, c'est l'aspiration qu'ont ces gens-là. Il y a ceux qui ont peur de l'avenir, de l'Europe, de ces évolutions possibles de leur pays, et qui se tournent vers la Russie en espérant garder une certaine sécurité de l'emploi et de leur mode de vie.
Ce que réclament ces séparatistes qui occupent les bâtiments publics à Donetsk, c'est d'abord l'organisation, la tenue d'un référendum dans 3 semaines.
Oui, tout à fait. Donc c'est ce qu'ils veulent. Et puis comme Jean-Claude a posé la question, est-ce qu'il y a une similarité avec ce qui s'est passé en Crimée, j'aimerais bien commencer par là et dire que oui et non. C'est-à-dire que la Crimée avait une particularité, cette grande base navale russe de Sébastopol, et que là, pour défendre leurs intérêts stratégiques, ben, les Russes étaient, on va dire, prêts à tout, et que d'ailleurs ça a été le premier pas qui a été fait, qui a donc débouché sur cette annexion de facto de la Crimée. Mais bon, évidemment, il y a des similitudes dans le sens où la structure de la population, l'industrie, donc ce type-là d'industrie un peu obsolète qui a besoin d'être subventionnée d'une façon ou d'une autre, fait que toute cette partie de l'Est de l'Ukraine a des similitudes Crimée comprises. Donc voilà, ce mouvement qui tend à une autodétermination, voire à cette idée de rattachement à la Russie, il s'est fait jour. Mais en même temps, il faut faire, et là c'est très difficile, il faut faire la part des choses, c'est-à-dire quelle est l'aspiration réelle de ces populations, quelle est la part de manipulation, la part d'intervention en sous-main de Moscou, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, ce que les Occidentaux en tout cas disent depuis plusieurs jours, c'est que les Russes sont à la manœuvre, et que comme en Crimée, les scénarios se ressemblent, voilà, il y a des hommes en uniforme et qui n'ont pas d'insigne, qui sont là.
Mais qui porteraient des armes russes.
Qui porteraient des armes russes. Donc, il y a même, après, des responsables des forces de sécurité ukrainiennes qui disent avoir reconnu des membres des forces spéciales russes. Donc, évidemment, il y a des similitudes en ce qui concerne le scénario.
Jean-Claude, je crois que vous aviez une dernière question.
Oui, Juan, je voudrais ici savoir également quel est le risque sécessionniste pour cette région de l'Europe.
Alors, Tudor Tepenag, le scénario criméen risque de se reproduire à l'est de l'Ukraine ?
Là, franchement, c'est difficile de répondre à cette question. Le risque existe, le risque est très grand. En fait, ce dont je m'aperçois depuis quelque temps, c'est que les Occidentaux sont incapables de prévoir le vrai but de Moscou et les agissements de Moscou jusqu'au bout. Donc ce scénario est à craindre. Après, c'est très compliqué. Moscou a aussi une partie à jouer sur le plan intérieur, c'est-à-dire que aux yeux de l'opinion publique, Moscou doit se montrer fort, doit montrer qu'il défend les intérêts des russophones où qu'ils soient, que cette vision de la grande Russie, à défaut de la défunte Union soviétique, peut encore perdurer. Donc ils peuvent aussi vouloir montrer ça sans aller jusqu'à démanteler l'Ukraine, car il s'agit bien d'un démantèlement.
Ce que souhaite Vladimir Poutine, en tout cas, c'est le fédéralisme en Ukraine, l'instauration du fédéralisme.
Oui, enfin, Vladimir Poutine, il le souhaite, les Russes l'ont dit, notamment Lavrov l'a répété. Et d'ailleurs, on voit bien que ce que souhaite Moscou se retrouve dans les revendications sur le terrain des gens de ces régions de l'Est de l'Ukraine. Mais fédéralisme, c'est quoi? C'est la porte ouverte au démantèlement et peut-être au rattachement à la Russie.
À suivre donc. Merci Tudor Tepenag d'être venu répondre à Jean-Claude qui nous appelait de Kinshasa. Il est 10h19 à Paris, 33 9 693 693 70. Bonjour Al-Souini.
Bonjour Juan. Comment allez-vous?
Très bien, je vous remercie. Vous nous appelez de Niamey, c'est bien ça? Vous êtes au Niger?
Oui, justement.
Voilà, vous avez des questions concernant le Rwanda qui, depuis maintenant une semaine, commémore le 20e anniversaire du génocide de 1994.
Oui, merci Juan. Je vais être bref de ma question. C'est de savoir quel a été le rôle du colonisateur belge et allemand dans le conflit qui opposa Hutu et Tutsi en 1994.
Alors, effectivement, le rôle des Allemands, puis ensuite des Belges, ont-ils notamment contribué à créer une fracture entre les Hutus et les Tutsis ? Bonjour André Guichawa.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, professeur à la Sorbonne à Paris. Vous êtes témoin expert du bureau du tribunal pénal international pour le Rwanda. Vous êtes un expert du Rwanda. La question d'Al-Soueni, notre auditeur, est intéressante. Est-ce que les Allemands qui ont pénétré au Rwanda, je crois que c'était à la fin du 19e siècle, puis ensuite les Belges qui sont arrivés au lendemain de la Première Guerre mondiale, est-ce qu'on peut dire que les colonisateurs ont leur part de responsabilité dans la haine qu'il y a pu avoir entre Hutu et Tutsi au Rwanda?
Ils ont eu leur part de responsabilité dans la mise en place de ce schéma bipolaire qui va prévaloir jusqu'à nos jours entre Hutu et Tutsi. Bon, pour revenir simplement en arrière, lorsque la colonisation est enfin parvenue dans cette région de l'Afrique, qui était vraiment la dernière à être colonisée, il a été imaginé que c'était la découverte d'un peuple élu. Monothéiste, donc ce n'était pas vraiment des Africains. C'était un peuple qui venait du Nord, voire d'Israël. Et là, il y a une thèse qui s'est développée de ce qu'on a appelé le peuplement millefeuille. Il y a eu des chasseurs, d'abord les Bantous, bon, puis les Twas, et puis après il y a eu les agriculteurs, les Hutus, et puis après il y a eu les éleveurs, les Tutsis, mais les Tutsis viennent du Nord et sont descendus par le Nil. Et ça, c'est un peu la thèse forte qui a prévalu très, très longtemps, qu'il y avait une filiation étrangère des populations tutsies et qui va être retournée ensuite au moment du génocide en disant il faut chasser les tutsies et les rejeter dans le Nil.
Mais les tutsies étaient considérés par les Belges comme ayant une intelligence suprême, comme étant faits pour gouverner.
Oui, alors c'est bien ça qui s'est passé, c'est-à-dire en découvrant le peuple élu, c'est-à-dire que les Tutsis en l'occurrence, alors qu'il y avait à l'époque sous la monarchie des lignages Tutsis, des lignages Hutus avec une très grande fluidité dans l'accès aux positions sociales, il y avait des rois Tlés Hutus, des rois Tlés Tutsis, enfin bon, même s'il y avait une monarchie homogène, mais il n'y avait pas la division bipolaire à laquelle on assiste aujourd'hui. Et ça, c'est véritablement le travail de la colonisation qui a réservé toutes les positions dominantes aux éléments tutsis au niveau de l'encadrement administratif, technique et surtout des nouvelles fonctions liées au développement des échanges commerciaux, aux activités urbaines et donc à l'enrichissement. Mmh. Et là, il y a eu un très gros travail qui s'est fait via l'école pour épurer ethniquement et sélectionner les élites promues par les autorités coloniales. Et le plus grave dans l'affaire, en fait, c'est que cette idéologie qui fondait la suprématie et les divisions sociales dans l'histoire, la race et la religion des populations tutsies est quand même restée, je dirais, un élément marquant, porté par ces élites. Et de l'autre côté, il y a eu cette intériorisation de la domination et qui a débouché sur la révolution en 1959, quand les Belges ont changé, si j'ose dire, leur fusil d'épaule en appuyant désormais, pour pouvoir rester après au-delà avec leur accord, la révolution avec les nouvelles élites Hutus.
Hutus, effectivement, la révolution sociale de 1959 qui préparait d'une certaine façon l'indépendance du Rwanda. Merci beaucoup André Guichawa d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur cette période du Rwanda dirigée par les Allemands et ensuite par les Belges. 33 9 693 693 70. Loïc, vous nous appelez d'Abidjan, bonjour.
Oui, bonjour RFC, bonjour à tous les auditeurs.
Vous revenez, vous, sur la nomination de Manuel Valls comme Premier ministre en France?
Effectivement. Alors, nous savons que Manuel Valls a été nommé dernièrement et que, vu sa ligne politique, il ne fait pas forcément l'unanimité à l'Assemblée nationale. Alors, question, nous nous demandons comment pourra-t-il gouverner sans cette majorité qui ne lui est forcément acquise.
Alors, la majorité. Bonjour Jérôme Sainte-Marie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Institut de sondage Polling Vox. C'est vrai que la semaine dernière, après son discours de politique générale, Manuel Valls s'est quand même vu accorder la confiance des députés. Et on voit bien en même temps qu'il n'a pas obtenu la confiance de tous les députés du PS et de tous les députés de la majorité. Donc il n'a pas fait le plein des voix dans son camp.
Oui, enfin en réalité, seule une poignée de députés socialistes se sont abstenus. Par contre, la perte est beaucoup plus forte du côté du groupe écologiste. Parmi les 17 députés écologistes, la moitié à peu près, c'est également n'a pas voté la confiance. Mais en tout cas, il l'a remporté cette confiance très très facilement en réalité, finalement à l'Assemblée. Et pour l'instant, il faut bien voir qu'il est assez fort dans les sondages, à 58% parmi d'approbation parmi les Français, une très forte majorité des sympathisants socialistes le soutiennent, ce qui fait que pour l'instant il est quand même porté par l'opinion et ça va inciter les députés socialistes et les députés de gauche en général plutôt à l'indulgence à son égard. La dernière chose, le dernier chiffre, le dernier pourcentage que je rappellerai à son sujet, c'est que la dernière fois qu'il s'est compté au sein du Parti Socialiste, Manuel Valls, c'était lors des primaires qui ont précédé l'élection présidentielle de 2012. Et à ce moment-là, dans ces primaires, qui ont finalement désigné François Hollande comme candidat, Manuel Valls n'avait recueilli que 5,6% des voix des participants à ces primaires socialistes. Donc il vient bien d'une minorité de droite au sein du Parti Socialiste, mais pour l'instant, les députés qui ont très peur d'une dissolution, qui ont très peur de se retrouver devant les électeurs, les députés de gauche, devraient lui accorder durablement leur confiance.
Oui, d'autant qu'en cas de dissolution, de nombreux députés de gauche savent qu'ils risquent véritablement de perdre leur siège. On va repasser au standard, Jérôme Sainte-Marie, avec encore une question concernant la politique française. Bonjour Lucien.
Bonjour RFI, bonjour Ron.
Vous nous appelez de Mondoukou, c'est à 30 km d'Abidjan, Côte d'Ivoire. On vous écoute.
Okay. Bonjour aux auditeurs de Mondoukou, c'est à Grand Bassam, et à ceux de la jeunesse émergente active,
c'est à Grand Bassam. Allez-y.
Ok. Il y a quelques semaines, les élections municipales ont eu lieu à Paris. NKM a remis en cause le système électoral à Paris. Alors, à ce sujet, il y a deux questions. La première question, c'est de savoir comment se fait l'élection des maires à Paris. Et la deuxième question, à quelle proportion est représentée l'UMP au conseil municipal?
Oui, d'autant que Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était la candidate UMP, après sa défaite, a déclaré que Paris sera la seule ville en France dirigée par un maire minoritaire en voix sur l'ensemble de la ville. Et elle a même ajouté que c'était une anomalie démocratique. Expliquez-nous, Jérôme Sainte-Marie, comment fonctionne l'élection du maire à Paris?
Oui, il y a donc 20 arrondissements à Paris, de tailles très différentes. Certains, comme le 15e arrondissement, comportent à peu près 200 000 habitants. D'autres, dans le centre de Paris, certains arrondissements ne comportent que quelques dizaines de milliers d'habitants. Quand on va voter aux élections municipales parisiennes, un électeur parisien vote pour les listes de son arrondissement. Il y a une offre différente au sein chacun des 20 arrondissements. C'est comme si on avait 20 communes, finalement, et 20 élections municipales juxtaposées. Mais quand on vote à la fois pour les listes de son arrondissement, pour ses conseillers d'arrondissement, mais en même temps, en proportion de la population de l'arrondissement, sont désignés parmi ces listes, c'est un peu compliqué, j'en suis désolé, parmi ces listes sont désignés ce qu'on appelle des conseillers de Paris.
Voilà, par exemple, les arrondissements les moins peuplés, comme le 8e ou le 1er, il n'y a que 3 conseillers. Le 15e, qui lui est beaucoup plus peuplé, en a 17.
Je me demande même s'il n'y avait pas que... Moi, j'ai des chiffres un peu différents. Ah. Il me semblait que c'était un seul conseiller de Paris pour le premier arrondissement.
Ah, peut-être, alors.
Deux pour le deuxième et le quatrième, c'était revu récemment. Donc, et alors qu'effectivement, pour le 15e, on est aujourd'hui à 18 conseillers parisiens pour le 15e arrondissement. Donc d'un arrondissement à l'autre, on envoie au Conseil de Paris entre 1 et 18 conseillers. Ce qui fait que comme c'est une juxtaposition de désignation à la proportionnelle en fait au sein de chaque arrondissement, on peut très bien se retrouver dans la situation. Ça avait déjà été le cas lors de la première élection de Monsieur Delannoy. Eh bien, on peut très bien se retrouver avec une équipe qui va être majoritaire en voix au niveau parisien, mais qui par le jeu de la proportionnelle juxtaposée sur les 20 arrondissements sera minoritaire au Conseil de Paris. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que Anne Hidalgo a été très largement élue, puisqu'elle a obtenu 91 voix sur les 163 conseillers de Paris. Quant à la réponse sur, je ne donnerai pas de chiffres plus précis,
en 10 secondes.
On arrivera à 72 députés d'opposition, conseillers d'opposition à Paris. Je ne donnerai pas de chiffres plus précis parce qu'en fait les listes de l'UMP, les listes de NKM comportent justement des membres de l'UMP, mais aussi beaucoup de dissidents de droite.
Merci beaucoup, Jérôme Sainte-Marie. Reste avec nous à suivre dans un instant le journal. À tout de suite.